un dimanche sur 4.
Un dimanche sur 4.
À 20h. Sur Radio Campus Paris.
93.9 FM.
Noé Margas.
Bonjour Symbiose, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux nous parler de la soirée dans laquelle on se trouve? Dans quel contexte on est?
Bonsoir Radio Campus. Et bien bienvenue du coup au Pavillon des Canaux pour la première soirée de novembre du collectif Fierce Faces, Amphibeach et Queer Stacé, pour une soirée sur l'écosystème des fonds marins, sur le corail. Et vous avez vu, on est dans le thème ce soir, pour celles et ceux qui regardent là en vidéo.
Merci.
We have nothing in common.
We both bite our nails. Please, don't go. I don't have any friends. I just got here. I just got off the bus.
The road of excess leads to the palace of wisdom. Blake, William, that's really all you need to know. That and don't dream it, be it.
Rocky Horror Picture Show. It's my favorite. And we saw my copy of Slated. You look so good in it.
Flattery will get you everywhere.
On vient d'entendre un extrait du film Party Monster, réalisé par Fenton Bailey et Randy Barbato en 2003. C'est un film qui se base sur l'histoire vraie de Michael Haig et tiré du livre Disclo Bloodbath de James St. James. Je voulais savoir, toi, Symbiose, comment est-ce que tu avais découvert la pratique Club Kid?
Oui, nous, c'est un peu des archives de nous faire écouter ces morceaux parce que c'est... un peu les grands-pères, la préhistoire des Club Kids dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90 dans le microcosme new-yorkais où ça s'est beaucoup développé. Moi, c'est pas de là que je tire mes inspirations parce que c'est pas de cet univers que j'ai découvert le drag. Et du coup, en tant que nouvelle génération de Club Kid, c'est plus sur des références contemporaines, premièrement un peu locales, puisque le Châtelain, qui est aujourd'hui mon parent Club Kid, c'est un Club Kid de Lyon et que j'ai grandi pas très loin. Et puis ensuite, des grands noms du Club Kid français comme Tiggy Turn ou la Kindergarten, donc sur les réseaux sociaux aussi, qui étaient... à un moment peut-être où les Club Kids ont regrandi et ont repoussé, ont repris des forces et du nombre dans les années 2010, c'est peut-être 2010 jusqu'à 2020, c'était aussi grâce aux réseaux sociaux et toutes les portes que ça pouvait ouvrir.
Toi, c'est grâce aux réseaux sociaux que tu as découvert le Club Kid ou c'est, je sais pas, par exemple un soir où tu es allé à une soirée et tu as vu le Châtelain performer?
Alors moi, j'ai l'impression que le Club Kid... comme il a grandi en moi, c'est des accélérations, des moments de forte avancée et aussi des moments décisifs ponctuels. C'est-à-dire que, comme beaucoup de personnes LGBT peuvent le raconter, peut-être que les déguisements, je m'imagine aussi que ça vient de là, de quand on est petit et qu'on se déguise sa mère, en son père, puis en d'autres personnages, d'autres inspirations, d'autres figures. Peut-être que ça vient de là, donc je pense que ça, j'ai des mouvements comme ça de longue maturation, j'ai l'impression, dans mon art. Et puis après, il y a parfois, en effet, des rencontres, il y a des accélérateurs, par exemple le fait de découvrir une pièce d'un costume. Je me souviens au cours d'un voyage qui m'avait fait me dire mais cette pièce c'est un cocon de papillon, c'est pas possible de le laisser là comme ça sur cette tringle d'habit, il faut absolument l'amener sur scène. Donc voilà. Et puis après des rencontres comme au cours de ma première année de Club Kid, on a lancé Fierce Faces avec d'autres Club Kids et qui ont grandi dans le collectif comme par exemple Vicky Bikini, mais aussi des Club Kids que je suivais sur les réseaux sociaux et avec lesquels on fait des nouveaux liens comme Babylone. Et puis c'est vrai qu'une fois en allant à une soirée du Châtelain où j'ai commencé comme bénévole d'abord à l'entrée, donc Faites attention à ce que vous faites et où ça peut vous amener.
Ok, et c'était en quelle année que tu as été bénévole?
Alors là, c'est ma deuxième année de Club Kin. Donc, il y a 2 ans. Et je me souviens, après, je pense que, voilà, il y a des parcours singuliers, individuels, et ce qui va faire que le résultat des Club Kin est totalement personnel. Moi, je me souviens, par exemple, que c'était pendant un mois de mars où il y avait la réforme des retraites. Et puis, on m'avait dit un jour, une amie m'avait dit, là, si tu veux, j'ai une scène ce soir, lance-toi, il y a un DJ, fais quelque chose. Et j'avais pris ça comme défi, donc je m'étais bien préparé, etc. Et je vous parlais de la réforme des retraites parce que, du coup, le mardi d'avant, il y avait une manifestation, j'avais été pris en garde à vue. Et donc, pendant 24 heures, j'ai pu donner des nouvelles à personne. Et je suis sorti de ma garde à vue au bout de 26 heures. Donc à 20 heures le mercredi, je suis sorti et la soirée avait déjà commencé. Et pourtant, tout était prêt et ça devait être ma première fois. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas la garde à vue, c'est pas cet ordre-là de la société qui va m'empêcher de monter sur scène. Donc j'étais repassé chez moi, récupéré mes affaires. Et puis j'avais performé. J'essayais de garder quand même ce souvenir en moi parce que c'était quand même un haut moment en émotion. Mais en même temps, j'espère que personne ne se souviendra de la perf ce soir-là parce qu'elle était particulièrement débutante. Hein.
Mais tu en gardes quand même un bon souvenir, tu ne regrettes pas.
Mais en tout cas, je pense que ça fait partie après de la pratique en tant que performeuse qu'on a. Moi, je l'ai vraiment développé cette pratique comme la scène, c'est un art vivant. C'est un art où on ne peut pas tout prévoir. Il y a un lien avec le public, il y a quelque chose qui se crée dans le moment. Donc c'est un art de la scène. Donc ça ne sert à rien de tout vouloir contrôler. Et à un moment, il y a une prise de risque. Il y a un moment de trac qu'il faut franchir et il faut se lancer. Il faut monter sur les marches qui amènent à la scène. Et ça fait partie de la pratique et laisser advenir le moment qui va se passer. Donc voilà, je pense que ça va aussi fabriquer. Le Club Kin, la créature Club Kin que je suis aujourd'hui.
Et est-ce que pour toi, dans ta pratique justement du Club Kin, le lâcher prise pour aller sur scène, ça a été quelque chose d'évident? Est-ce que par exemple, tu avais déjà des expériences un peu, je sais pas, théâtrales ou pas du tout? C'était vraiment la première fois que tu montais sur scène?
J'avais laissé tomber toute la partie artistique que m'avaient transmise mes parents, très orientés par leur métier sur la culture et l'enfance. J'avais laissé tomber pendant longtemps et du coup, le Club Kin, c'était un peu un retour pour moi, peut-être un virage que j'attendais pas. Ce même mois de mars, bon, c'était un mois de mars haut en couleur parce que jusque-là, je m'étais engagé depuis 2 ans comme sapeur-pompier volontaire. Donc, je travaillais dans une caserne, etc. Okay. Par envie, par envie de découvrir ce que c'était le métier, mais aussi parce qu'en tant qu'étudiante, j'avais besoin aussi d'argent. Et à un moment, j'avais trop de choses à faire dans ma vie. Du coup, j'ai dû me dire, bon, si j'ai envie de vraiment être sérieuse dans mon drag, réfléchir, construire mes tenues, mes performances, etc., parce que c'est un très grand engagement. Il faut que je fasse des choix et donc j'avais fermé ma page de mon engagement de sapeur-pompier pour commencer ça. La question c'était quoi ?
La question c'était est-ce que tu avais déjà eu une pratique scénique ?
Voilà, donc c'est un peu une revanche, mais maintenant ce qui me fait drôle c'est que parfois encore que dans le cadre de mes études, de ma formation professionnelle, etc., quand on me dit oh, « mais ça te fait pas peur ou quoi ?» etc., mais je vous rendais pas compte, ça fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est d'être en monstre devant une salle complète dans une soirée et de devoir dévorer les gens. Ça, c'est quelque chose qui fait peur. Le reste est trop facile.
Donc tu sens que ton drag, il a infusé dans ta vie?
Oui. c'est une petite question pour dire beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, je pense que même si je ne regrette pas les engagements que j'ai pu avoir avant, par exemple dans la caserne de pompiers qui était un milieu très masculin, parfois masculiniste et quand même traversé par toutes les questions de féminisme, d'antiracisme qui traversent la société. Je pense qu'il n'y a aucune sphère qui est totalement hermétique à toutes ces transformations de notre monde. Mais en tout cas, avec l'origine que j'ai eue, avec la construction de mon identité queer, etc., je ressens un accomplissement que j'avais encore jamais senti, un accomplissement de soi-même que j'avais encore jamais senti. Alors peut-être que c'est juste le sentiment du moment et que plus tard, je me dirai, oh là là, le chemin, il a encore été long depuis ce temps-là, mais là, en tout cas, c'est ce que ça m'a apporté.
Ok, et du coup, parce que du coup, ça me rend curieux, est-ce que ton expérience en tant que pompier, ça te sert dans ton drag?
Parfois, aux pompiers, on me disait, mais arrête de réfléchir à ça, juste fais-le. C'est le protocole. Au bout d'un moment, arrête de questionner le protocole, fais-le. Et je crois que dans mon intention, ma tentative de Club Kid, comme j'essaye de la créer, mon art, comme j'essaye de le construire, parfois singulier par rapport à ce qui existe, les modèles qui ont pu m'inspirer ou ce qui existe aujourd'hui sur la scène Club Kid, je me tords pas mal la tête, ouais, parce que je me dis, voilà, le collectif qui m'a beaucoup aidé à me lancer aussi, c'est celui qu'on a fondé, donc Fierce Faces, qui est un collectif d'écologie trans. L'écologie trans, c'est pas un milieu qui existe déjà, c'est pas un milieu qui est déjà organisé, avec des associations, avec des militantes, avec des réseaux, etc. Donc c'est un lieu à construire, c'est des rencontres à faire entre les combats queer, entre les combats écologistes et tous les combats que nous on considère comme indissociables, les combats de l'antivalidisme et les combats de l'antiracisme. Et du coup, oui, ça demande de se creuser la tête. Donc finalement, aux pompiers, voilà, j'ai aussi grandi par ça, donc c'est quelque sorte un peu la suite.
Et comment est-ce que tu as justement toutes ces théories, toute cette pensée, tout ce politique, comment est-ce que tu arrives à un moment à le rendre de manière artistique, concrète dans ton Club Kid? Est-ce que c'est des choses qui ont été parfois compliquées ou alors où la transformation en quelque chose de visuel, de scénique, ça a été assez évident tout de suite?
Tout à l'heure, je me suis un peu différencié de... ce que j'ai peut-être trop méchamment et trop vite balayé comme la préhistoire du Club Kid. Mais en fait, Wallpaper, qui était un des membres de ces communautés, il disait déjà que leur scène Club Kid, c'était un laboratoire. C'est un moment d'expérimentation, c'est un moment de fabrication. Et en fait, de ce point de vue-là, peut-être pas sur tous les aspects, mais en tout cas, de ce point de vue-là, moi, je nous sens très proche au sein de Fierce Faces, mais je vais arrêter un peu de parler en nous, mais je vais juste voilà, parler de moi, ma pratique. En tout cas, je me sens très proche de cette pratique-là parce que, oui, parfois, c'est difficile. Oui, ça se fait aussi par des tentatives de choses qui n'existent pas forcément avant, d'engagement, de rencontres, de réseaux qui ne sont pas forcément formés. Et ce n'est pas forcément clair comme de l'eau de roche de les manières dont on peut s'inspirer pour représenter sur scène, par exemple, les essais nucléaires français à Mururoa dans le Pacifique ou les essais nucléaires à Reagan en Algérie. Et pourtant, je pense que c'est l'envie que j'ai, la conviction que j'ai de vouloir amener ces enjeux-là, des enjeux d'écologie, pour en faire des enjeux queer. À travers chacune de mes performances, du coup, construire, tisser petit à petit, un peu comme un costume, un peu comme une création, une œuvre d'art, comme mes costumes aussi, construire ces récits-là, ces fabulations d'écologie trans qui n'existent pas ni en théorie, ni dans les récits qu'on raconte. Et c'est pour ça que j'espère être une des voix pour le faire.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire également comment est-ce que tu as trouvé du coup ton nom drag Sainte-Biose, qui est quand même assez incroyable?
Oui, alors on s'était bien en fait c'était petite dédicace, c'était avec l'amie avec qui on a lancé Fierce Faces, donc Julie. Elle voulait se lancer comme DJ et moi comme en Club Kid, en créature. Et on réfléchissait aux noms qu'on aimait bien, aux consonances, au sens que ça donnait. Et donc, on avait fait des tableaux, des listes, des inspirations, etc. Et finalement, Sainte-Biose, je pense que les principaux aspects que j'ai envie qu'on retienne de ça, c'est un peu le jeu de mots Sainte-Biose et une symbiose. Donc, mettre en symbiose les combats queer et les combats de l'écologie, mais c'est aussi, et c'est pour ça que, même si vous êtes nombreuses à l'oublier, il y a bien un T à l'intérieur pour faire comme une sainte, parce que l'engagement que j'ai envie de donner pour l'écologie, c'est pas un engagement tiré des qui se base sur les chiffres du GIEC, c'est pas un graphique totalement objectif qui vous permet de vous convaincre que si, en fait, si vous réduisez votre empreinte carbone, ça va résoudre tous les problèmes du changement climatique. Je dis pas que c'est des combats injustes et que c'est pas des combats à mener. Heureusement qu'il y a des personnes pour le mener, mais moi, l'engagement que j'avais envie de donner, c'est l'engagement par lequel moi j'ai été sensibilisé à l'écologie, c'est-à-dire en fait un émerveillement où il y a presque quelque chose de divin par un contact que moi j'ai eu en grandissant dans la Drôme jusqu'à mes 18 ans, je sais pas, 17 ans. Et du coup, ce contact avec la nature et l'émerveillement qu'on peut avoir à travers, quand on observe, quand on accepte de regarder toutes les invisibles indésirables, notamment, bah, du coup, pour moi, c'est les insectes, ou les minuscules insectes. S'il y a des biologistes qui m'écoutent, ils vont dire « Mais non, c'est pas des insectes, ils avaient 6 pattes, etc. » Mais en tout cas, toutes ces minuscules indésirables qu'on ne regarde même plus et qui pourtant sont tellement queer, tellement plein d'inspiration et tellement club kid que voilà, moi c'est cet espace un peu divin que j'avais envie d'investir à travers mon nom pour donner à voir par mes performances, par mon art de club kid, un émerveillement et du coup sensibiliser, donner un engagement sensible aux gens et du coup une raison affective, artistique de vouloir défendre et de se rendre compte qu'on fait partie de l'environnement qu'on défend.
Et est-ce que c'est via tes costumes qui sont assez grandioses, enfin là il est vraiment très 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 important, est-ce que tu cherches à retranscrire aussi cet émerveillement?
Oui, totalement. Totalement. Je pense que sur deux aspects, déjà la qualité, le soin que j'ai envie de donner, pas forcément le mimétisme toujours, dans le sens un mimétisme de ressembler physiquement, même si j'espère évidemment que mes costumes ils représentent des hybridités, des monstres qui sont à la croisée de plein de créatures existantes, mais en fait un mimétisme émotionnel. Là, par exemple, ce soir pour Amphibie chez Crustasex, la soirée de Fierce Faces, pour partager un peu aux auditrices, c'est mon costume anémone de mer. Et en fait, pour l'émerveillement qu'on peut ressentir face à un récif de corail, face aux espaces sous-marins, c'est moi en le ressentant que je me suis dit, c'est pas possible, il faut le partager. C'est un émerveillement qui est, pour moi, est tellement profond dans mon engagement écologiste que je me suis dit il faut vraiment le partager. Et pour ce soir, comment j'espère croiser les engagements queer et les engagements pour la protection des mondes sous-marins, de ces mondes tellement pleins de couleurs comme finalement les communautés LGBT et parfois tellement invisibilisées, c'est-à-dire que en fait c'est un monde qui risque de disparaître. Et avec les menaces aujourd'hui sur les communautés queer, c'est aussi un monde qui est menacé de disparaître et qui pourrait disparaître dans le silence avant même qu'on ait pu lui laisser la place, lui donner la place, lui faire la place pour qu'elle puisse bourgeonner, pour qu'elle puisse éclater, briller de toutes les couleurs qu'elle contient. Et du coup, c'est aussi un peu une dédicace à toutes les personnes qui, je pense notamment aux enfants, mais j'imagine à tous les âges de la vie, de se dire que en fait, ces couleurs, elles existent et cette version de vous, elle peut éclore. Maintenant, on va tout faire pour que vous ayez la place, pour défendre la place que vous avez besoin pour pouvoir éclore de toutes ces couleurs-là.
Thank you.
Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu penses le son, la création musicale dans tes performances ?
Au début, mes performances, en tout cas sur le plan sonore, je les ai construites avec une personne qui travaillait dans notamment la création de spots, qui était étudiante en production sonore, des spots publicitaires, si je ne me trompe pas. Et je pense que c'est une manifestation un peu de mes créations qui sont que j'ai envie, en fait, même que d'assumer comme des créations collectives aussi, avec toutes les personnes qui créent à la fois sur scène, mais aussi, là, ces dernièrement, ça a pris encore plus de place dans mes costumes, la réalisation complète, donc aller chercher le matériel, et puis le travail manuel qui a ensuite. Pourquoi je l'assume ? Parce que pour moi, c'est, je pense que maintenant, ça, voilà, au moment où on est dans l'émission, on comprend, je pense aussi le sens qui est de faire réseau, de donner aussi la possibilité à plus de monde d'arriver sur scène, d'ouvrir la porte à plus de monde dans les soirées. Et même, même pour moi, j'ai envie de m'entourer de ces personnes-là, etc. Sur scène, ensuite, mes sons, j'ai essayé de les penser un peu comme un mélange entre à la fois des documentaires animaliers, parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment non pensé dans le monde écologiste, le regard normatif qu'on porte sur la nature, à quel point l'hétéronormativité, à quel point aussi le patriarcat est présent dans les commentaires des documentaires animaliers. Et autant moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est des images incroyables, et autant je préférerais peut-être les regarder avec de la musique et sans le son, parce que à chaque fois, tout concevoir la nature sur des rapports de proie, sur le mâle qui voudrait absolument tout faire pour féconder la femelle, etc., alors qu'en fait il suffit d'y porter un peu plus attention, et puis on voit à quel point la nature elle est queer, la nature elle est de plein de formes, de même des espèces comme les arwhiptail qui pratiquent la parthénogenèse, et du coup il n'y a même plus besoin d'avoir de mâles dans ces espèces là puisque les femelles elles pratiquent l'autoreproduction. Donc autant d'exemples qui montrent qu'il y a plein d'autres discours à avoir sur la nature. Donc ça, c'est un élément vraiment indispensable, donc, dans mes performances, des documentaires détournés. Et ensuite, ça fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, comment mettre en scène artistiquement tout ça. Honnêtement, c'est un défi. Honnêtement, je pense que ben voilà, le laboratoire, il n'est pas encore la recette magique, elle n'est pas encore totalement trouvée. Mais ce que j'essaye aujourd'hui de faire, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir à la fois de la musique française, parce que quand moi je dis de la musique française, je pense à Aïna Kumura, hein, donc de la musique française de ce registre-là, en tout cas, ce que je veux dire, la musique française, c'est la musique en français, voilà, donc la musique francophone, et de la musique de club, plus de la pop, parce que pour moi, c'est encore une forme hybride que j'essaie de construire pour ne pas être totalement en décalage avec les espaces où je me produis, donc les clubs, le monde de la nuit, qui cherchent à un moment un émerveillement, des références communes, et pas seulement pas forcément des annonces terribles qu'on va tous mourir, comme c'est parfois le message qu'on peut interpréter des rapports du GIEC. Donc voilà, c'est une création qui est en cours et sans doute qui va encore évoluer dans mes prochaines performances. Donc stay tuned.
Dans la rue, des tenues charmantes, maquillées comme mon fiancé. Car son fille, l'allure stupéfiante, habillée comme ma fiancée. Cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est belle, il est beau décrier, l'outragé, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de la voir nue, j'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs, et ce garçon qui pourrait dire non.
Est-ce que maintenant tu peux nous parler de la manière dont tu penses les déplacements, le geste dans tes performances ?
Yes. C'est vrai que ça fait une bonne transition là avec le morceau qu'on vient d'écouter, Troisième Sexe, parce que en fait le corps, la corporalité, l'espace, c'est-à-dire où le concept de corps, l'espace que prend le corps et le rôle qu'on a envie de lui donner. Dans mes performances, j'essaye d'en faire un support pour une transformation de l'humain que je suis en civil, à la créature Club Kid qui prend vie. Alors, là, c'est le grand programme politique, quoi. Et puis après, il y a comment on met ça concrètement en place. Et ben déjà, c'est en racontant, nous, des termes qu'on emprunte au sein de la Ch'tulucène, la scène Club Kid de Fierce Faces, des histoires qu'on souhaite raconter au-delà de l'épiderme, c'est-à-dire des histoires, un récit, une petite fable qu'on espère raconter dans le temps d'une performance, ouvrir l'imaginaire des gens, donner à voir une autre vision, et au-delà de l'épiderme, parce que pour nous, l'important, c'est, bon, en tout cas pour moi, c'est de ne pas seulement rester à l'humain, à l'humaine, mais à faire des liens, donc évidemment avec les combats trans et les combats écologistes, mais pour donner à voir les autres possibilités qui seraient possibles d'exister, de remplir l'espace, de faire corps, de concevoir son corps. Et là, du coup, ça fait particulièrement écho au combat anti-validiste où la limite du corps, je pense que c'était un des premiers milieux militants où la limite du corps, elle a été repensée pas seulement avec le référentiel du corps valide, c'est-à-dire un corps avec qu'on imagine tous deux bras, deux jambes, une bouche, deux yeux, fonctionnels dans le sens où ça s'entend dans la norme, mais faire corps autrement. Et en fait, c'est des combats qui font aussi écho avec l'écologie trans, et c'est pour ça que je pense que c'est indissociable, notre écologie trans que j'incarne dans mon drag, elle est indissociable de ces combats antivalidistes, parce que par exemple, en fait, le changement de genre, le changement de sexe, les opérations, les hormones, tout ça, ça en fait aussi partie. Et alors ensuite, comment transmettre tout ça sur scène ? Eh ben, c'est de recouvrir totalement le corps humain. Alors, en ce moment, je suis un peu à une évolution dans ça, dans mon drag, où je laisse apparaître des parties du corps humain à travers, dans le costume, dans le monstre, pour essayer de donner à voir encore plus la dynamique de la transformation qui est en cours, pour semer encore plus le trouble entre le monstre et l'humain qui aurait été avalé ou qui est derrière en civil, etc. Et du coup, de mettre du trouble dans l'illusion que je viens d'avoir sur scène. Voilà.
c'est très riche. C'est très, très riche. Et du coup, est-ce que dans ta manière de te déplacer, dans tes performances, le côté créature, tu le penses d'une certaine manière ?
Eh bien, déjà, quand je suis sur scène, je suis une créature qui très souvent n'entend rien et ne voit rien, grâce au costume. Bon, voilà, c'est bien, ça montre aussi que ça rappelle aussi qu'il y a des créatures qui n'ont pas forcément, qui ne s'orientent pas forcément par ces sons-là, mais par les infrasons, les ultrasons, par les ombres, les sensations. Donc par la force des choses, je suis une de ces créatures sur scène, avec les défauts et les questions qui du coup sont, que ça implique dans mon drag. Est-ce que j'ai envie d'être une créature Instagram ou d'être une créature sur une scène, quel type de scène? Voilà, c'est un moment de maturation, bon, en tout cas au moment de maturation de mon art où j'en suis à me poser ces questions-là d'adapter, de trouver des techniques, etc. Mais du coup, ça renvoie vraiment au laboratoire dont on parlait tout à l'heure, des expérimentations sur scène, parce que les matériaux, les techniques de fabrication des costumes, etc., ça va énormément conditionner la manière dont on va pouvoir performer, avec un peu ce bémol-là. Et ça, c'est quelque chose que je pense que j'arriverai pas tout de suite à le résoudre. C'est que comme j'ai vraiment envie d'avoir ce luxe dans mes performances, d'avoir des costumes sur mesure, d'avoir des créations originales, ce qui du coup peut s'éloigner d'autres types de performances drag, etc. Et bien c'est vrai que tout de suite ça donne une certaine valeur aux créations qui sont faites, aux soins, au temps que ça demande, une valeur monétaire mais aussi une valeur affective qu'on y met. Et puis les costumes, ça je suis en train de l'accepter aussi, les costumes ils s'abîment aussi au cours des performances, ils ont une vie, et ce que j'espère c'est de mener la plus belle vie et d'écrire les plus belles histoires avec.
Et où est-ce que t'en es dans ta réflexion de ton drag sur les réseaux sociaux? Tu abordais le sujet il y a quelques minutes.
C'est une place où je pense que j'y suis dans une certaine mesure à l'aise, étant donné que j'ai une esthétique de l'émerveillement qui correspond bien. Après, j'ai aussi envie d'exister en dehors de ça. Donc, ça demande aussi de pouvoir concrétiser mon art dans d'autres types d'événements. Par exemple, au mois d'août, on a réalisé un événement avec les Digitales en soutien à Solidarité Kanaki, donc pour l'écologie trans décoloniale, qui s'inscrit du coup totalement dans le projet, la vision écologiste que je fais de mon mieux pour incarner dans mon art. Et du coup, bon voilà, il s'est passé un énorme orage pendant la soirée. Et voilà, c'est aussi ça la scène, c'est de composer avec les costumes qui s'abîment, etc. Bon, il se trouve que j'étais en fleurs ce soir-là, donc j'ai profité de la pluie pour pousser de plus belle. Mais voilà, c'est un des compromis qu'il faut trouver, et je suis encore en train de les trouver. Et puis après, sur l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça permet de faire des contacts, des réseaux, de faire communauté, de se tenir au courant, de rester informé. Et tout à l'heure, quand je vous parlais des chansons en français, c'est parce que moi, je viens pas du tout d'une famille multilinguiste. On parlait vraiment que français chez moi. Et dans la Drôme où j'ai grandi, c'était le son qui met en mouvement les corps et qui, du coup, leur permet de donner d'autres sensations. Parfois, avec l'ajout de la drogue, comme ça a été beaucoup fait dans les mouvements Club Kid, c'est quelque chose que moi, j'ai connu en français, et c'est pour ça que je pense que c'est ce qui me parle le plus et qu'on retrouve dans mes performances.
Et comment tu penses le texte dans tes performances?
Et... tout complet, vous saurez tout sur Symbiose. C'est difficile en fait, tout ça, là, c'est des questions séparées que tu poses, et j'essaie du coup de segmenter un peu tout ça, mais ça se construit ensemble, parce que le costume donne une certaine possibilité à parler, à prendre la parole, ou pas, notamment pour moi, ou pas du tout, parfois avec les masques, avec le fait que j'entends même pas, moi, ce que je peux dire, etc. Donc, les enregistrements, parfois, c'est une bonne solution pour me dégager aussi de ma voix du Maine. Et ce texte-là, il doit à la fois, pour moi, dans mes performances, refléter l'émerveillement et refléter l'engagement. Je me souviens notamment de cette performance que j'avais fait sur qui en fait croisait des textes de mémoire sur l'épidémie du VIH et toute la communauté qui a disparu, donc le trou générationnel de générations qui ont entièrement disparu et qui structure aujourd'hui la communauté LGBT. Et l'épitaphe qui avait été faite pour le glacier Öskjökull en Islande, qui avait disparu et qui était aussi une sorte de... ce même rapport à la mort et ce même rapport au deuil, dans le sens où une fois que ce glacier disparaît, il va emporter avec lui toutes les histoires d'animaux qui vivent, d'êtres vivants et non vivants qui habitent dans cet environnement-là. Et en fondant, il fait disparaître, il dissout avec lui toutes ces histoires-là, tous ces souvenirs-là. Et comme les générations LGBT qui ont disparu et qui emportent avec elles toutes ces mémoires-là. Et donc, c'est ces équilibres-là de nouvelles histoires que j'essaie de raconter.
Tu disais que, du coup, les différents éléments de tes pères, forcément, là, je les dissocie, mais ils étaient très liés les uns aux autres. Est-ce que dans ton processus de création, tu commences toujours par la même chose, peut-être le costume ou la bande-son, ou est-ce que ça dépend en fonction des performances ?
Tout ce que je raconte là, ça a l'air très, je sais pas, peut-être c'est une impression que ça donne, très sérieux, très réfléchi, etc. Mais en fait, cet émerveillement, il vient totalement contrebalancer ça, parce que pour moi, mes performances, je les conçois à travers des envies, à travers des inspirations que j'ai, des coups de foudre émotionnels que j'ai sur une chanson parfois, face à une performance. Il y a plein d'artistes qui m'inspirent de beaucoup de manières différentes aujourd'hui sur la scène parisienne, puisque c'est celle que je connais le plus, et plus large encore grâce aux réseaux sociaux. Mais donc, non, en fait, mes performances, elles sont plus... des coups de foudre qui arrivent comme ça au fur et à mesure de... En fait, j'ai un besoin de m'exposer le plus possible à beaucoup de contenu culturel, artistique, pour que, comme si j'étais un petit oursin dans ça, et qu'il y a des éléments forcément, parfois que des petites touches, parfois quelque chose de plus grand, une chanson, un texte, une référence, qui vont s'agripper aux aiguilles de ce petit oursin et emporté par le courant, tout le reste va partir, mais avec tout ce qui va rester agrippé petit à petit, ça va créer la performance, les performances, et c'est pour ça aussi qu'elles sont toutes aussi différentes.
À l'heure actuelle, la Terre est pleine de réfugiés, humains ou pas, sans refuge. Donc je pense que trouver un grand nouveau nom se justifie. Passé, présent et avenir, j'appelle tout cela le Stuhlsein. Les espaces-temps réels et possibles du Stuhlsein se réfèrent aux pouvoirs divers de la Terre à l'échelle tentaculaire. À ses forces comme aux choses rassemblées sous le nom de Naga, Gaïa, Tangaroa, Spider-Woman, Terra. Mon Stuhlsein, même encombré de termes grecs, enchevêtre une myriade de temporalités et de spatialités, d'entités en assemblage intra-active, incluant le plus qu'humain, l'autre qu'humain, l'inhumain et l'humain comme humus. Tous ces milliers de noms sont trop grands et trop petits. Toutes les histoires sont trop grandes et trop petites. Nous avons besoin d'histoires qui sont juste assez grandes pour accueillir les complexités et maintenir, à vide de surprise, les frontières ouvertes pour de nouvelles ou d'anciennes connexions. En tant que créature mortelle, une façon de bien vivre et de bien mourir dans le Stuhlsein consiste à unir ses forces pour reconstituer les refuges, pour rendre possible un rétablissement partiel et robuste, une recomposition biologico-politico-technologico-culturelle apte à inclure le deuil des pertes irréversibles. Je viens de faire une lecture d'un extrait de « Vivre avec le trouble » de Donna Haraway, qui est paru en 2016. On pourrait, par rapport... le nom de la Stuhlsein, c'est un nom que vous employez dans votre collectif Fear Faces. Je voulais savoir ce que ça signifiait pour vous et comment vous inscriviez... Votre collectif dans cette pensée-là.
Oui, il y a évidemment le lien de parenté avec les travaux d'Ona Haraway, avec tout le contexte ensuite dans les rapports, le contenu politique qu'on reprend aussi et dans lequel on s'inscrit totalement aussi en filiation. Mais et je pense que une bonne porte d'approche, il y a la grande différence, c'est que Donna Haraway, elle va l'écrire donc à la fin CENE, c'est-à-dire Stuhlsein comme une ère géologique, par provocation avec l'anthropocène qui aurait été l'ère dans laquelle certains pensent que, bon, certains notamment chimistes imaginent qu'on est, c'est-à-dire que l'humain transforme désormais toutes les composantes jusque à la stratification des sols. Donc voilà un peu la provocation qui est faite par Donna Haraway en disant non, finalement c'est pas l'humaine qui transforme, c'est avec les évolutions techniques nous qui sommes des êtres de terre, qui sommes des êtres de glaise, qui sommes en train de qui pouvons nous reformer. C'est pour ça que c'est ça les Cthulhu, les Chthoniens, les êtres de la terre qui peuvent qui sont encore totalement malléables, et c'est la technique l'avènement du monde technique dans lequel on vit, nos sociétés se construisent, qui nous rend totalement malléables, parce que grâce à cette technique on pulvérise totalement toutes les binarités qu'elles existent, que ce soit les binarités valides, non valides, que ce soit les binarités de frontières étrangers, nationales, étrangers, les binarités de genre, les binarités de sexe, etc. Nous, là, Cthulhu Sen, autant on s'inscrit totalement dans ça, et je me vois totalement dans cette approche des êtres de terre qui sont encore modelables, qui sont automodelables, et je reviendrai juste après sur la transformation, mais nous, dans Fierce Faces, c'est un peu une ironie qu'on a trouvée, parce que c'est la Cthulhu Sen, S-C-E-N-E, du coup Sen comme la stage, et du coup comme...
Ça, j'adore que tu expliques concrètement.
Mais non, parce que peut-être que les gens, c'est pas très clair, mais du coup voilà, la stage, et du coup amener les Cthulhu sur la stage, ouvrir le stage à tout le monde, et c'est là l'ambition du Fat Time, du coup, qu'on donne, c'est-à-dire le temps de cette mode éphémère. Vous avez été pris pour des freaks toute votre vie dans le métro ou à la campagne ou depuis que vous êtes enfante, etc. Maintenant, la scène, elle est à vous. C'est vous la tendance. Donc, incarnez cette freakness. C'est votre moment. Et c'est ça, un des grands moments, c'est ce défilé libre, un des grands moments des soirées Fierce Faces le soir. Mais le grand lien avec ça, c'est pour moi la transformation qu'on ouvre. Donc, je pense que j'ai déjà donné pas mal de billes pourquoi c'était aussi important dans ma manière de faire du Club Kid. Aussi parce que je l'ai vécu. J'ai vécu cette transformation de genre, cette transformation de classe, trans-classe, trans-genre. Et cette transformation, elle est aussi accessible à beaucoup de monde. Et là, je pense que ça peut faire un lien totalement encore biomimétique, un lien avec la nature, puisque, en fait, dans l'ordre, dans les différentes espèces, en biologie, on identifie différents types de transformations. Alors, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'amétabolie. Donc, les organismes amétaboles, c'est lorsque le corps il va grandir en proportion au fur et à mesure que l'individu grandit. Donc ça, c'est chez les poissons où le poisson il peut faire 10 kilos, être 10 fois plus grand et en fait il va être juste une représentation, c'est le même mais en beaucoup plus grand. Donc ça, c'est un type de transformation. Il y a aussi des transformations hétérométaboles. Ça veut dire, ça c'est plus les transformations du corps humain où il va avoir par exemple de la barbe qui va pousser, donc il va avoir une mutation progressive du corps. Et puis, il va y avoir l'holométabolie, donc lorsque ça passe de la phase, par exemple, l'exemple typique, c'est la chenille qui devient cocon, qui devient un papillon. Il y a un séquençage très, très fréquent. Et en fait, toutes ces transformations-là, il y en a encore plein d'autres, des récits de transformations à raconter. Et ça, c'est à vous, à nous toutes, de les écrire. Et j'espère en incarner une de ces formes dans moi, mon Club Kid, en faisant une transformation, une métamorphose. Et je pense que Donna Haraway, on est une. Ben, ce que j'espère, c'est que on puisse être une concrétisation émouvante de son travail.
Merci. Comment est-ce que vous pensez la scène à Fierce Faces pour qu'elle soit un peu moins classiste et bourgeoise?
Ça commence à l'entrée. Je pense que c'est de se dire que c'est des soirées prix libres. C'est des soirées où, qui du coup demande beaucoup de bénévolat, qui du coup demande beaucoup d'organisation, de co-organisation, beaucoup de liens, beaucoup de confiance, beaucoup de travail en amont, puisque il n'y a pas de sous-traitance ou il n'y a pas d'informations trop centralisées qui empêcheraient le grand nombre de bénévolat qu'on sollicite au sein du collectif. Et c'est pour ça que c'est un collectif aussi nombreux. Donc, pour permettre aux personnes de pouvoir entrer selon leurs moyens et de nous soutenir selon leurs envies. Et ensuite, sur scène, je pense que, du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fat time, c'est-à-dire de ne pas considérer qu'il y aura l'élite, qu'il y aura les stars qui se comportent comme tels et qui se représentent comme tels sur scène ou sur les réseaux, etc. Mais que on est dans une expérimentation où la frontière avec le public et la scène, elle est beaucoup plus floue. Et c'est pour ça que à la fin de chaque performance, enchaînement de performance de Fierce Faces, de la chute du scène, on s'excuse, on dit bon, non mais maintenant c'est fini, envahissez la scène, démontez-la, prenez-la, et on a besoin d'être plus nombreuses sur scène pour que la communauté drag, club kid, elle grandisse.
Et quel est le mode d'organisation du coup du collectif Fierce Faces?
Grand laboratoire d'expérimentation.
Qu'est-ce que vous expérimentez?
De tâtonnement, d'organisation. Je pense que déjà, la règle, c'est que ça se base sur l'envie. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire réseau, si vous avez envie de vous engager pour quelque chose, on a toujours fait de la place. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier. On a toujours fait de la place aux nouvelles envies qui débarquaient. Voilà, après, ça organisait collectivement des événements, ça demande aussi beaucoup de sérieux, parce que c'est des responsabilités de quel espace de soins et de liens à quel espace on donne vie, à qui on ouvre les portes, qui on met sur scène, qui est-ce qu'on représente, etc., etc. Donc ça veut dire que ces responsabilités, elles demandent aussi à un moment d'avoir du sérieux et une organisation en essayant de se construire pour inclure tout le monde avec les capacités cognitive des personnes, en restant le plus possible anti-validiste, à la fois dans l'accueil du public qu'on fait, mais aussi dans le fonctionnement qu'on se fait nous en interne, et puis permettre les différents strates d'engagement avec, comme c'est un collectif d'étudiantes et d'étudiants en très grande majorité, ça veut dire aussi un public qui est un collectif qui est économiquement vulnérable par la composition de ses membres qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources, et donc composer avec tout ça. Mais le lien, c'est l'envie, c'est les relations qu'on fait, c'est les histoires qu'on écrit ensemble, et qui fait que un an et deux mois après, on est toujours plein de vie.
Comment est-ce que vous pensez le soin dans votre collectif?
En ce moment, on est sur l'élaboration d'une charte pour notre public et pour nous à l'intérieur de notre collectif qu'on construit petit à petit au fur et à mesure des expériences qu'on vit ensemble, parce que les expériences collectives qu'on a, il y en a une partie qui s'écrit ensemble, et puis il y en a aussi une partie dont on vient aussi chacune avec des bagages, des envies. Donc ça, c'est un des grands défis des engagements, des expériences collectives, c'est de comment on parvient à construire une base commune, à construire une identité commune avec toutes ces expériences, ces âges aussi différents. Ça, c'est déjà une condition pour le soin, parce que dans le collectif et dans notre public, je sais qu'il y a des gens, il faut être forcément plus âgé pour dire ça, mais des gens jeunes qui ont 17 ans, 18 ans, 16 ans, parfois des mineurs, voilà. Et en fait, c'est du soin pour moi de permettre que ces portes, elles soient ouvertes à ces personnes-là pour leur dire... En fait, oui, on donne beaucoup d'énergie, ça nous prend beaucoup de temps, ça nous prend parfois aussi des conflits entre nous, je pense que c'est inévitable, mais en fait, tout ça, on le fait pour vous, parce que on le fait aussi pour le public, et parce que pour nous, c'est important de proposer, et on aurait aimé avoir ces espaces-là, et on est heureuse de pouvoir leur donner vie, ou en tout cas les impulser, et puis après, ils prennent vie avec le public.
C'est un collectif qui est ouvert, c'est-à-dire que chaque personne peut venir. Comment ça se passe pour l'intégrer?
c'est ouvert dans le sens où on n'a jamais dit non à quelqu'un, à quelqu'une. Après, ça se fait avec... Bon, en fait, quand les personnes elles viennent et avec une envie, tant que ça ne compromet pas l'ensemble du collectif parce que ce serait une envie trop éphémère ou alors parfois on a des envies mais on n'a pas les moyens de les mettre en place, si vous venez avec les envies et les moyens... ça va se faire d'une manière ou d'une autre. Par exemple, on a déjà fait beaucoup de collaborations avec d'autres collectifs, avec les Invertis, avec la Friquiche, avec les Digitales. On a aussi fait des collaborations avec des artistes qu'on invite, comme aujourd'hui Travaux en cours, qui participent, qui habillent même totalement les DJ de ce soir. Donc il y a plein de manières de faire le réseau dont on a besoin. Et ça, c'est... ça se retrouve aussi dans tous les engagements associatifs qu'on invoque, puisque à chaque fois, on essaye que les soirées soient basées sur un écosystème, ou en tout cas, esthétiquement, de se référer à un écosystème pour pouvoir inviter, donner la parole à des personnes militantes sur le terrain de ces écosystèmes-là. Par exemple, quand on a fait une soirée sur la nuit à des personnes qui défendent le ciel nocturne pour pouvoir créer ces réseaux-là, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas des... L'écologie trans, ce n'est pas des réseaux qui existent encore et ces histoires-là, c'est toute notre activité de les écrire.
Comment vous prenez les décisions au sein de vos collectifs?
On est organisé par pôle, donc on essaye de fonctionner par une grande décentralisation, une grande autonomie de chaque pôle, parce que c'est un fonctionnement qui est... nécessaire dans le sens où il n'y a personne qui est à temps plein pour tout contrôler, et ce n'était pas de toute façon notre envie. Notre envie, c'est cette autogestion, cette autocréation là qu'on a. Donc c'est pour ça que en fait il y a un pôle par type de pratique artistique, donc pôle performance, pôle communication pour tout ce qui va être création graphique, pôle scénographie, pôle concert, etc. Et ça va se décliner, je ne vais pas faire une liste parce que sinon je vais forcément oublier quelqu'un, quelqu'une. Et ensuite, il y a un pôle coordination qui coordonne, qui met en vie tous ces pôles. Et l'intention qu'on a, c'est de faire ce pôle tournant pour que à chaque AG, les responsabilités puissent tourner, à la fois pour que chacune et chacun puisse se former en intégrant ces nouvelles responsabilités et puisse aussi prendre conscience que construire ensemble, ça veut dire à la fois qu'on doit permettre l'émancipation individuelle en proposant des espaces d'expression artistique à tout le monde, mais aussi une émancipation collective, c'est-à-dire qu'on prenne soin que la charge mentale elle soit répartie d'une manière à être vivable et enviable pour tout le monde, par exemple.
Et pourquoi est-ce que vous avez mis en place un droit de veto?
Dis donc, t'es bien renseigné. Parce que c'est aussi une manière de prendre soin, c'est de se dire chaque personne va avoir des limites au bout de lesquelles elle se dit que au-delà de cette limite, je ne me sens l'histoire s'écrit sans moi, ça va au-delà de ce que j'accepte. Donc plutôt qu'une démocratie majoritaire avec un vote et puis l'expression de la majorité, on pense que ce système du veto, c'est une manière de... Ça demande une responsabilité de chacun, chacune, de se dire tout le monde a potentiellement peut être une force de blocage, mais l'objectif, ce n'est pas d'être une force de blocage. L'objectif de ce veto, c'est de se dire vous avez des lignes rouges, il faut que chacune, chacun apprenne à se les connaître pour soi-même, mais aussi à les exprimer. Et du coup, vous avez cet outil à votre disposition. C'est-à-dire que lorsque vous mettez votre veto, on annule une personne, on annule un choix, n'importe quel choix du collectif, et on n'a pas besoin de demander d'explication. On respecte juste le fait que ça va au-delà de vos limites, et ce n'est pas ce qu'on a envie.
Merci beaucoup, Symbiose.
Merci, Noé.